VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion et
Dili Dico.
Au sommaire de cette édition du jeudi 22 juin 2023.
Une plainte a été déposée en France et une demande d'enquête à la CPI contre le président Macky Sall au sujet de la crise au Sénégal.
Dans le centre du Nigeria, au moins 16 personnes ont été tuées dans deux nouvelles attaques.
Violent combat au Soudan avec des tirs et des explosions ce jeudi à Khartoum.
Il n'y avait pas de blessés ce matin.
Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste présent dans la capitale soudanaise, nous situera dans la partie magazine sur l'ampleur des affrontements.
Ouverture aujourd'hui à Paris du sommet pour un nouveau pacte financier mondial.
Ici aux États-Unis, visite d'État du Premier ministre indien Narendra Modi avec au menu un entretien dans le bureau ovale suivi d'un dîner d'État prestigieux en soirée.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, pour l'instant le journal.
Le président sénégalais Macky Sall est visé par une plainte en France pour crime contre l'humanité. Un avocat français de l'opposant Ousmane Sonko a aussi soumis une demande d'enquête à la Cour pénale internationale à La Haye. Le point avec Eric Manirakiza.
Ces procédures pour crime contre l'humanité visent aussi le ministre de l'Intérieur sénégalais Antoine Diome, le général Moussa Fall, commandant de la gendarmerie sénégalaise et 112 autres individus. Macky Sall et Antoine Diome ont ordonné et supervisé la commission de ces crimes contre des manifestants désarmés depuis le mois de mars 2021, affirmaient les requêtes évoquant des meurtres, tortures et disparitions forcées. La plainte en France a été déposée devant le pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris, alors que le président Macky Sall participe ce jeudi et demain vendredi à un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. L'avocat français Juan Branco, l'un des avocats de M. Sonko, affirme avoir établi le meurtre de 50 personnes entre mars 2021 et juin 2023.
Au Mali, des groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger ont dénoncé des fraudes et des irrégularités lors du référendum sur la nouvelle constitution. Le cadre stratégique permanent réunissant ces groupes affirme être opposé au projet de nouvelle constitution soumis dimanche à référendum et dans lequel il dit ne pas retrouver l'accord de 2015. Il a aussi mis en garde contre un coup fatal que le retrait de la mission de l'ONU demandé vendredi par la junte au pouvoir porterait, selon lui, à l'accord de paix conclu en 2015.
Dans le centre du Nigeria, au moins 16 personnes ont été tuées dans l'état du Plateau, théâtre d'affrontements meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. Le point avec Lionel Gaïma.
Mardi, 6 membres d'un groupe local d'autodéfense d'agriculteurs ont été tués dans le district de Riom et 10 autres personnes dans une attaque dans la région de Mangou, a déclaré le major Ishaku Takwa, un porte-parole de l'armée. Bala Fouanje, député local de Mangou Sud, affirme que 14 personnes ont été tuées, des maisons détruites et des biens incendiés. Depuis mai, les violences ont fait plus de 200 morts entre les communautés agricoles Bérom et les communautés Peul d'éleveurs dans les régions de Riom, Barkin-Ladi et Mangou. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont régulièrement le théâtre de conflits meurtriers entre agriculteurs et éleveurs autour de l'exploitation de la terre et des ressources en eau. L'enchaînement de meurtres suivis de représailles ont favorisé l'émergence d'une criminalité plus large dans la région avec des gangs qui mènent des expéditions dans des villages où ils tuent des habitants par dizaines et procèdent à des enlèvements contre rançon.
Plus de 9000 migrants originaires d'une dizaine de pays africains sont arrivés depuis janvier dans le nord du Niger après avoir été refoulés d'Algérie, selon un rapport de l'ONU et de l'Organisation internationale pour les migrations. Débordé par l'afflux, le centre de transit géré par l'OIM à Assa-Makka ne peut prendre en charge tous les migrants et la plupart vivent dans des conditions extrêmement précaires, sans ressources pour rentrer dans leur pays.
Une cinquantaine de migrants marocains sont portés disparus depuis plus de 10 jours au large du Maroc après avoir tenté de rallier l'Espagne à bord d'une embarcation clandestine. Ces migrants au nombre de 51 étaient censés prendre une embarcation de migration clandestine au large d'Agadir à destination des îles Canaries le dimanche 11 juin à l'aube, d'après des informations dont nous disposons, a déclaré un membre de la famille d'un des migrants.
L'Éthiopie s'apprête à lancer la quatrième phase du remplissage du réservoir de son méga-barrage sur le Nil Bleu, a annoncé jeudi son vice-premier ministre, malgré l'opposition constante de l'Égypte, inquiète pour son approvisionnement en eau. Les trois premiers remplissages n'ont pas nui aux pays riverains du fleuve. Les autres remplissages ne seront pas différents, a expliqué Demeke Mekonnen, en ouvrant à Addis Abeba la deuxième conférence régionale sur l'utilisation équitable et raisonnable du Nil. Le Soudan et l'Égypte, les deux pays situés en aval du barrage éthiopien sur le Nil Bleu, ne sont pas représentés à cette rencontre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
De nombreux dirigeants du Nord et du Sud ont plaidé aujourd'hui à Paris pour dégager les milliers de milliards de dollars pour la transition énergétique et l'adaptation des pays vulnérables au réchauffement de la planète. Les précisions de John Lydon.
Le président français Emmanuel Macron, hôte de ce sommet prévu jusqu'à vendredi, a appelé à un choc des financements publics face à la crise climatique et à la pauvreté. Il a noté qu'il y avait beaucoup d'argent, mais pas forcément au service des progrès de la planète. Il faut chambouler un système qui, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a failli. Une vingtaine des dirigeants africains sont présents, dont plusieurs haussent le ton contre les pays riches plus prompts à verser des milliards pour soutenir l'Ukraine. L'objectif de ce sommet est de renouveler l'architecture financière internationale née des accords de Bretton Woods en 1944 avec la création du FMI et de la Banque mondiale. L'accès à leur financement est jugé difficile par les pays en développement, alors que leurs besoins sont immenses, mais aussi pour sortir de la pauvreté en s'affranchissant des énergies fossiles et préserver la nature.
Le premier ministre indien Narendra Modi a été reçu avec faste jeudi par le président Joe Biden à la Maison-Blanche en présence de milliers de membres de la communauté indienne. Une visite d'État qui consacre la volonté des États-Unis de soigner les relations avec ce partenaire stratégique. Abdourahman Dia.
Narendra Modi a été accueilli par le président américain avec les honneurs militaires avant un entretien dans le bureau ovale. Je pense depuis longtemps que la relation entre les États-Unis et l'Inde sera l'une des relations les plus marquantes du XXIe siècle, a affirmé Joe Biden dans de brefs propos liminaires, insistant également devant le dirigeant indien sur les valeurs de la liberté d'expression et du pluralisme religieux. La visite d'État du Premier ministre indien doit déboucher sur de gros contrats dans la défense et l'industrie notamment. L'annonce la plus forte portera sur la fabrication future en Inde de moteurs F-414 pour avions de chasse par General Electric. Narendra Modi doit ensuite s'adresser au Congrès avant un élégant dîner de gala sur les pelouses de la Maison-Blanche autour d'un menu qui, en son honneur, sera végétarien et inspiré de la cuisine indienne. La visite n'est pas du goût de tous. Des parlementaires démocrates mettent en cause le respect des droits humains et de la liberté de religion en Inde.
La Chambre des représentants a approuvé ce mercredi un accord visant à renforcer les relations économiques des États-Unis avec Taïwan, un vote qui a provoqué le mécontentement de Pékin. Pour être entériné, le texte qualifié d'historique par Taipei doit désormais être validé par le Sénat américain. Concrètement, l'accord signé le 1er juin vise à développer les échanges commerciaux entre Washington et Taipei en harmonisant les contrôles douaniers, fluidifiant une série de normes et en instaurant des dispositifs anticorruption.
L'armée ukrainienne a fait état jeudi d'un succès partiel dans les combats dans le sud-est et l'est du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué mercredi que les progrès de la contre-offensive étaient plus lents que souhaités, mais que Kiev ne subirait aucune pression pour les accélérer. De son côté, le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, a déclaré jeudi que les forces ukrainiennes diminuaient leur activité sur la ligne de front et se regroupée, mais qu'elle avait encore la possibilité de mener des actions offensives.
Un champ de débris a été découvert dans l'Atlantique Nord, près de l'épave du Titanic, par un robot participant aux recherches internationales pour retrouver un submersible de tourisme scientifique disparu depuis dimanche, ont annoncé aujourd'hui les gardes-côtes américains. Les experts examinent ces informations qui seront discutées lors d'un point de presse à Boston. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec John Lindon.
Un peu plus de 30 milliards de francs CFA viennent d'être encaissés selon Financial Afrique par le trésor public du Burkina Faso au niveau du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. C'est au terme de son émission de bons assimilables du trésor de maturité 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de maturité 3 et 5 ans. La Banque africaine d'import-export vient de lancer l'Africa Trade Gateway. Il s'agit d'une suite de 5 plateformes numériques conçues comme un guichet unique pour permettre à la banque de mieux remplir son mandat, promouvoir le commerce africain et mettre en œuvre l'accord de libre-échange africain. Parmi ces plateformes, il y a le système panafricain de paiement et de règlement qui devrait faciliter les transactions dans toute l'Afrique. L'objectif de réallocation aux pays pauvres de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux a été atteint, a annoncé la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. La communauté internationale s'est accordée en 2021 sur le principe d'une émission globale des DTS de 650 milliards de dollars, dont 33 milliards devaient revenir à l'Afrique. L'idée était d'augmenter le montant alloué aux pays pauvres à 100 milliards.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le club de foot de Cardiff et de Nantes devant la justice en France.
Le club britannique compte réclamer plus de 100 millions d'euros de dédommagement après le décès accidentel du joueur Emiliano Sala en 2019. Cardiff City demande en outre la condamnation du club nantais à lui verser 2 millions d'euros au titre du préjudice réputationnel subi dans ce dossier. Le joueur argentin âgé de 28 ans avait trouvé la mort en janvier 2019 dans un accident d'avion au-dessus de la Manche alors qu'il rejoignait son nouveau club Cardiff City. Le FC Nantes réclame devant le tribunal de près de 10 millions d'euros supplémentaires correspondant du transport d'Emiliano Sala que Cardiff a déjà été sommé de régler. Les avocats du club gallois comptent aussi demander réparation des préjudices que ces procédures abusives causent au club nantais depuis 4 ans.
La Liga espagnole, Athletic Real et Getafe Barcelone en ouverture de la saison les 12 et 13 août.
Le FC Barcelone, champion en titre, recevra Getafe au cours de la première journée de la Liga le week-end du 12-13 août selon le calendrier de la saison 2023-2024 divulgué ce jeudi par la Fédération espagnole de football. La tâche du Real Madrid, vice-champion d'Espagne, s'annonce plus difficile face à l'Atlético Bilbao à San Mamés. L'Atlético Madrid, qui a complété le podium du classement la saison dernière, accueillera lors de cette journée d'ouverture Grenade, qui retrouve l'élite. Il faudra attendre le 29 octobre et la 11e journée pour assister au premier Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Le second classico du championnat entre les deux géants d'Espagne aura lieu à Santiago Bernabéu le 21 avril dans le cadre de la 32e journée. La saison s'achèvera le 26 mai.
Luis Suarez atteint la limite.
L'attaquant uruguayen de 36 ans qui évolue au Grêmio Porto Alegre au Brésil depuis janvier souffre d'une grave blessure au genou droit et atteint la limite, a indiqué mercredi le président du club brésilien Alberto Guerra, inquiet sur la poursuite de sa carrière. Différents médias brésiliens ont rapporté mardi que l'ancien buteur de Liverpool et Barcelone aurait l'intention d'annoncer prochainement sa retraite en raison de douleurs au genou droit qui a déjà subi de nombreuses opérations et qui s'aggravent.
La NBA se prépare à l'arrivée de la fusée Wembanyama. Atterrissage prévu à San Antonio.
Et oui, une nouvelle ère s'annonce en NBA avec l'arrivée de l'extraterrestre Victor Wembanyama, ainsi décrit par LeBron James lui-même. Les San Antonio Spurs devront faire du prodige venu de France leur numéro 1 de la draft 2023 ce jeudi soir. La Wembamania s'est pourtant bien emparée de New York où il a atterri lundi en provenance de Paris. Des dizaines de fans l'attendaient à l'aéroport pour le filmer et lui faire signer des autographes.
Page des sports VOA Afrique, signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les habitants de Khartoum se sont de nouveau réveillés au son des tirs et des explosions ce jeudi, mais la situation est moins violente qu'hier mercredi. Eric Manirakiza a joint Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste et résident de la capitale soudanaise.
Je suis actuellement devant le village turc où il n'y avait pas de blessés ce matin, mais hier il y avait des dizaines de blessés. Maintenant c'est calme. Mais il y a des accrochages, surtout au sud de Khartoum et à Omdurman et à Khartoum Nord. Généralement, c'est plus calme qu'hier. Il n'y a pas d'aviation militaire.
Que s'est-il passé hier?
Toute la journée, il y avait des combats au camp de Saïb al-Hassanab, au camp de la réserve centrale, autour de le complexe d'industrie militaire, autour du corps blindé de l'armée soudanaise, au centre-ville. Tout autour du palais présidentiel, à Omdurman et à Khartoum Nord, Bahri, partout. Il y avait des frappes aériennes, il y avait des échanges de frappes par drone. Les forces de soutien rapide commencent à utiliser des drones de type kamikaze qui s'explosent sur place.
L'armée avait prévenu les civils d'évacuer leurs habitations.
Tout ce quartier de Rimela, d'Elgouz, de la Jadida, de DM ont été évacués volontairement par les habitants parce qu'il y avait des blessés parmi les civils, il y avait des industries. Donc les gens ont quitté ces quartiers. Ils se déplacent normalement la plupart vers Kalakla, où j'habite ici. Il y a beaucoup de familles qui sont déplacées vers Kalakla.
Et c'est dans quelle partie de Khartoum? C'est le nord, le sud, l'est?
C'est au nord de Khartoum, au nord de centre-ville, à peu près à 10 km ou 11 km. C'est à 3 km du camp de Tayyip al-Hassanab, à 3 km de la réserve centrale et à 7 km du corps blindé de l'armée soudanaise. Alors, il est entouré par position militaire des deux parties, mais il n'y avait pas de force dans le quartier. C'est un quartier vaste qui se compose de plusieurs quartiers internes. Il y a Kalakla al-Gouba, Kalakla al-Lafa, Kalakla al-Dikhinat. C'est presque une ville. L'organisation Médecins Sans Frontières, avant-hier, a pu distribuer des provisions de médicaments et des matériels médicaux. J'ai vu deux gros camions qui ont été déchargés à l'hôpital turc ici, portant des médicaments et des matériaux.
Livrés par qui?
Par l'organisation Médecins Sans Frontières. Tout à l'heure, devant moi, il y a une voiture de Médecins Sans Frontières avec une équipe. En fait, ils se déplacent entre les hôpitaux du sud de Khartoum. C'est la seule organisation humanitaire qui est à Khartoum actuellement, Médecins Sans Frontières.
C'était Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste et résident de la capitale soudanaise. Au Mali, les autorités de la transition ont demandé le retrait de la MINUSMA. À Gao, dans le nord du pays, les avis sont fortement partagés sur la question. Notre correspondant à Gao, Boubacar Touré, a interrogé certaines personnes de la ville. Reportage.
Depuis l'intervention de Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali aux Nations Unies, où il a clairement demandé le retrait de la MINUSMA du Mali, les commentaires vont bon train dans les rues de Gao. Et les avis restent très partagés. Parmi les gens interrogés, certains pensent que la MINUSMA doit simplement partir car elle n'aide pas les soldats maliens à instaurer la paix dans le pays.
Bon, nous avons pris connaissance de la décision des autorités maliennes de demander le retrait de la force de la MINUSMA. C'est une décision vraiment que nous saluons et nous respectons la décision de nos autorités.
Nous, on est optimistes. Le MINUSMA, pas MINUSMA, nous, on est au Mali. Nous, c'est le Mali, on voit. La MINUSMA, tout le temps, il va partir. Donc, si les autorités décident à ce qu'ils partent, s'ils voient c'est dans ça l'intérêt du Mali, donc ils n'ont qu'à partir.
Moi, je vois qu'ils devraient embarquer parce que c'est pas de faire travailler les gens qui est notre souci. Parce qu'au minimum, ils devront aider l'armée malienne à sécuriser le territoire malien. Vraiment, qu'ils plient bagages sans problème, sans dégâts, on s'excuse et puis la vie continue.
D'autres affirment clairement que la mission des Nations Unies au Mali est d'un apport inestimable pour les populations locales.
Le départ de la MINUSMA tout de suite à la hâte, ce n'est pas une bonne chose pour la population pauvre de Gao. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la MINUSMA, on a au moins plus de 2000 jeunes de Gao qui arrivent à subvenir à leurs besoins grâce à la présence de la MINUSMA. Moi, présentement, on m'a donné de l'eau, des forages dans trois de mes villages.
Moi, quand même, personnellement, je ne veux pas que la MINUSMA n'a qu'à partir. Je ne sais pas là-dedans, hein, mais très sincèrement, je ne veux pas qu'elle va partir. La MINUSMA, c'est vrai que ce n'est pas gay. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est centrée au centre même de notre économie dans nos régions du nord au Mali.
Aujourd'hui, pour les régions du nord, sinon pour le Mali en général, la MINUSMA fait beaucoup de choses. Et une raison qui fait que beaucoup de gens de la région, des régions du Nord sont sur place. En toute sincérité, la MINUSMA apporte beaucoup. Sur le plan quand même développement, ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour les Nordistes.
Pour le troisième groupe de personnes interrogées, après le retrait de la MINUSMA du Mali, les autorités du pays doivent s'assumer.
Bon, nous on pense que si les autorités ont demandé leur départ, on est derrière eux. Mais seulement, il faut comprendre qu'il y aura beaucoup d'impact à Gao en termes de travail, en termes de beaucoup de choses. Donc, on sait que ça va jouer quand même sur Gao. Donc, il faudrait déjà préparer quelque chose qui va au moins atteindre les jeunes de Gao en attendant.
Mais si aujourd'hui, la MINUSMA quitte, qu'est-ce que l'État a fait pour après la MINUSMA? C'est l'autorité. S'il décide du départ de la MINUSMA, on est qui pour dire le contraire? Mais que l'autorité s'assume.
Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En Sierra Leone, les électeurs se rendent aux urnes samedi pour la présidentielle. Les votants plus âgés qui ont vécu la guerre civile se disent préoccupés par le fait que les jeunes qui se sont révoltés en août dernier contre les difficultés économiques pourraient recourir à la violence. Senanou Tord à Freetown a suivi une campagne de porte-à-porte menée par les électeurs plus âgés visant à maintenir la paix le jour du scrutin. Le récit est de Blanche Sanou.
Kali Mara est un survivant. Il n'avait que 8 ans lorsque les rebelles ont envahi sa maison familiale en 1991 pendant la guerre civile. Il raconte comment sa tante a été tuée en sa présence et son village incendié. Kali Mara, survivant de la guerre.
Ils ont coupé les deux seins de ma tante et elle a saigné à mort. Ils nous ont battus avec des cordes et des cannes et ont incendié nos maisons. Mon oncle a proposé de leur donner de l'argent et du bétail, mais ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils voulaient sa vie. Alors, ils l'ont abattu aussi.
De nombreux autres survivants ne veulent pas que la même violence se reproduise. Certains citoyens disent que les jeunes sont agités. Pendant une manifestation en août dernier, plus de 25 personnes ont été tuées. Fatou Guewa est enseignante à Freetown. Elle affirme que beaucoup de ses voisins fuient vers la campagne pour éviter d'être pris dans des troubles violents.
Certains jeunes disent qu'ils sont prêts à se battre s'ils ne gagnent pas les élections. Certains disent que les dernières élections n'étaient pas crédibles. Alors ils sont prêts à défendre ces élections à tout prix.
Le Forum interactif du tribunal spécial est un consortium de plus de 100 organisations de la société civile. Ce forum craint que certains politiciens vont chercher à semer le trouble. Ses membres ont ciblé des quartiers à risque pour faire campagne pour la paix et contrer ce qu'ils qualifient de désinformation et de campagne contraire à l'éthique de la part de certains candidats à la présidence. Patrick James Trunker est le représentant du Forum interactif du tribunal spécial.
Parce que nous voulons nous assurer que nos élections seront pacifiques, que nous allons raconter l'histoire de la guerre, décrire la violence et ses conséquences pour le pays. En réalité, ces jeunes qui ont participé à l'insurrection l'année dernière ne connaissent pas notre histoire.
Les responsables de la sécurité nationale affirment que les données dont ils disposent montrent une réduction de la violence électorale cette année comparée à 2018. Selon eux, seuls 14 cas de troubles mineurs, comme la destruction de matériel de campagne de l'opposition, ont été enregistrés entre avril et fin mai. Selon eux, il y a quelques cas d'incendie criminel ces dernières semaines, mais tout est sous contrôle. Abdul Karim Will est le porte-parole du Bureau de la Sécurité nationale de la Sierra Leone.
The military will be coming to support the police, but their intervention will be exclusive.
Les militaires viendront en appui aux forces de l'ordre, mais leur intervention se limitera exclusivement à des déploiements statiques et des patrouilles mobiles. Juste pour que nous soyons sûrs qu'au cas où la situation sécuritaire devrait dégénérer, l'armée va intervenir pour soutenir la police.
Les Sierra Leonais se rendent aux urnes samedi et espèrent des élections paisibles.
Le fils du président américain Joe Biden, Hunter Biden, a plaidé coupable à deux accusations criminelles mineures cette semaine, alors que les républicains déclarent que cet accord ne met pas fin à leur enquête sur le président et sa famille. Les démocrates affirment que ses préoccupations ne sont pas comparables à celles portées contre l'ancien président Donald Trump. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, nous en dit plus, le récit avec Michel Joseph.
I'm very proud of my son.
Le président des États-Unis apporte soutien à son fils Hunter Biden, qui vient de conclure un accord avec un procureur fédéral dans l'État du Delaware sur une affaire de fraude fiscale et de port illégal d'armes. Le président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, a critiqué le ministère de la Justice pour cet accord avec Hunter Biden.
Si vous êtes le principal opposant politique du président, le ministère de la Justice essaie littéralement de vous mettre en prison. Et si vous êtes le fils du président, vous bénéficiez d'un traitement de faveur.
Les démocrates, quant à eux, ont déclaré qu'il s'agissait d'un exemple de bon fonctionnement du système judiciaire américain. Jamie Raskin, représentant démocrate.
Les choses sont sérieuses, mais elles n'ont rien à voir avec de la corruption présidentielle.
Un historien politique estime qu'il s'agit d'un moment sans précédent dans l'histoire de la présidence. Matt Dalek de l'Université George Washington.
Il est un peu inhabituel de voir le ministère de la Justice d'un président en exercice mettre en accusation et obtenir une condamnation, donc un aveu de culpabilité de la part du fils du président.
Les républicains, pour leur part, estiment que cet accord ne change rien à leur enquête sur les transactions financières de la famille Biden. Le représentant républicain James Comer.
Il s'agit toujours d'une enquête sur Joe Biden. Le fils du président est évidemment une personne d'intérêt. Nous pensons que nous avons déjà apporté des preuves accablantes qui suggèrent le blanchiment d'argent, la fraude électronique, le racket, le fait d'être un agent étranger non enregistré.
Les inquiétudes sur le double standard dans le système judiciaire américain sont déjà un thème de la campagne présidentielle de 2024. Les législateurs républicains ont affirmé mercredi que les enquêtes du ministère de la Justice sur Trump sont motivées par des considérations politiques. Jim Jordan, représentant républicain.
Peut-être qu'au lieu des attaques incessantes contre le président Trump, le pays se porterait mieux si nous découvrons comment toute cette fausse histoire sur Trump et la Russie a commencé.
Les démocrates estiment que les accusations selon lesquelles le ministère de la Justice a été utilisé contre Trump ne font que détourner l'attention des graves accusations d'espionnage et de corruption auxquelles l'ancien président est confronté. Cette semaine, les représentantes républicaines Marjorie Taylor Greene et Lauren Boebert veulent introduire une résolution de mise en accusation de Joe Biden, mais risquent de ne pas recueillir assez de voix pour aller de l'avant.
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.